VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 14 septembre 2016. Au sommaire ce soir,
Bosco Ntaganda à la CPI, au septième jour d'une grève de faim, l'ex-chef de guerre congolais a refusé de se présenter au tribunal. Les audiences se poursuivront en son absence.
En RDC, accord entre l'opposition et la majorité pour une organisation couplée des prochaines élections.
Pour la première fois, Boko Haram publie une vidéo sans Aboubakar Shekau, que le groupe État islamique voulait remplacer.
Zimbabwe, l'un des principaux militants du mouvement de contestation anti-Mugabe, recouvre sa liberté.
Nous parlerons de la campagne présidentielle ici, aux États-Unis.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal.
Nous ouvrons en République démocratique du Congo. Les prochaines élections, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales, seront couplées. C'est le résultat de l'accord intervenu aujourd'hui entre l'opposition et la majorité. Les représentants de l'opposition avaient les travaux avaient abandonné les travaux du dialogue national lundi pour protester contre l'idée de la majorité de programmer les élections locales avant la présidentielle. Au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, écoutons l'annonce faite à Kinshasa par le facilitateur Edem Kodjo.
Un accord a été trouvé sur la question de la séquence des élections. Et à la suite de cela, nous pouvons espérer continuer nos travaux, et ce, dès demain. Il se trouve que demain, dans la matinée, il y a des cérémonies officielles concernant la rentrée parlementaire des deux chambres du Parlement, le Sénat et la Chambre des députés. Alors, nous avons décidé de reporter notre propre travail dans l'après-midi.
Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique en RDC.
L'ancien chef de guerre congolais, Bosco Ntaganda, a encore refusé de comparaître à son procès à la Cour pénale internationale. Ntaganda, qui est au septième jour d'une grève de la faim et qui affirme être prêt à mourir, dénonce ses conditions de détention et ce qu'il qualifie de manque d'équité dans son procès. Il a plaidé non coupable de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qu'auraient commis ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la RDC. La Cour a ordonné la poursuite du procès en son absence.
Le groupe armé nigérian Boko Haram a publié une nouvelle vidéo dans la nuit de mardi à mercredi. Fait rare, son commandant Aboubakar Shekau n'y apparaît pas. Les interrogations sur son état de santé sont à nouveau ouvertes, l'armée nigériane affirmant l'avoir grièvement blessé dans un bombardement. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
L'enregistrement de 13 minutes posté sur YouTube montre un homme dans un long camis blanc, vraisemblablement un imam, qui préside les prières de l'Aïd devant des centaines de villageois et d'enfants amaigris présentés comme des soutiens aux combattants islamistes. Un autre combattant, entouré de ses hommes, sabre à la main, conduit la foule, affirmant qu'il représente la faction de Shekau, qui a été mise à l'écart début août par le groupe État islamique. L'armée nigériane a annoncé le 23 août que Shekau avait été mortellement blessé avant de se raviser et d'assurer qu'il avait été très grièvement blessé à l'épaule dans un raid aérien qui aurait tué plusieurs commandants de Boko Haram. L'homme de la vidéo a ensuite visé directement le gouvernement de Muhammadu Buhari, promettant que le mouvement djihadiste ne se rendrait jamais malgré les opérations militaires en cours dans le nord-est du pays.
Investigation sur l'insurrection au Burkina Faso. En dépit de retard, le dossier avance, notamment grâce au rapport de la commission d'enquête. C'est ce qu'ont annoncé la procureure du Burkina Faso, Maïsa Sérémé, et le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire à Lounzandré lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. L'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida, qui refuse de répondre aux convocations, est pointé du doigt. Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Les dossiers Thomas Sankara et coup d'État manqué sont très avancés. n'eût été la question de l'ADN de Thomas Sankara et l'exception soulevée par la défense des putschistes, les dossiers auraient connu son dénouement avant la fin de l'année. Par contre, le dossier de l'insurrection populaire a connu d'énormes difficultés. Mais depuis la publication du rapport de la commission d'enquête sur l'insurrection, le dossier a fait des avancées notables. Le rapport a aussi permis aux juges d'avoir les yeux braqués sur l'ex-premier ministre, Yacouba Isaac Zida. Étant au moment des faits, les 30 et 31 octobre 2014, le chef des opérations du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Malheureusement, le général Zida n'a toujours pas répondu aux convocations à lui adressées par les juges d'instruction. Si les choses en restent en l'état, assure Madame le procureur Maïsa Sérémé, la justice va émettre un mandat d'arrêt international contre le général Zida. Zoumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Haute Cour du Zimbabwe a ordonné aujourd'hui la libération sous contrôle judiciaire d'un des animateurs de la Fronde populaire contre le président Robert Mugabe, à quelques jours d'une nouvelle série de manifestations de l'opposition. Les détails avec Tatiana Mosso.
Promise Mkwanzanzi, à la tête du mouvement Tajamuka, nous sommes agités, avait été arrêté le 26 août dans la capitale Harare et inculpé de violence sur la voie publique. Sa libération a été ordonnée 3 jours avant des manifestations prévues par l'opposition dans tout le pays, en dépit d'une interdiction de rassemblement en vigueur dans la capitale. Tajamuka a aussi affirmé que l'un de ses militants, le comédien Silvanos Mudzovova, avait été hospitalisé après avoir été frappé par des inconnus. Nous soupçonnons des membres de la ZANU-PF, le parti au pouvoir, d'être derrière cette attaque, ont-ils affirmé. Le Forum des ONG des droits de l'homme au Zimbabwe, une coalition d'organisations, a indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles des personnes probablement proches du pouvoir s'en prenaient à des sympathisants de l'opposition. Depuis plusieurs semaines, les rues d'Harare sont le théâtre d'une nouvelle vague de contestations contre le régime sur fond de graves crises économiques.
Afrique du Sud, Desmond Tutu, 84 ans, a quitté l'hôpital du Cap. C'est ce qu'annonce sa fondation. L'ancien archevêque, prix Nobel de la paix, avait été admis en août pour une infection récurrente. Lors de cette hospitalisation, Desmond Tutu a subi une petite intervention chirurgicale pour résoudre la cause de son infection, a indiqué la fondation Tutu dans un bref communiqué.
Au Kenya, un homme de 20 ans vient d'être condamné à 100 ans de prison. Un tribunal l'a reconnu coupable d'avoir violé 3 jeunes filles, 2 âgées de 13 ans et 1 de 10 ans, après les avoir enfermées dans une église.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un plan pour l'Afrique qui permettrait de donner des perspectives économiques aux candidats à l'émigration en Europe. Il s'agit d'un plan ambitieux qui a le potentiel de lever 44 milliards d'euros d'investissement. Chalois Jaffari.
Lors d'une session plénière du Parlement européen, Juncker a déclaré que son plan offrirait des opportunités à ceux plus susceptibles de quitter leur pays pour une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Juncker souhaiterait même doubler les fonds si les États membres de l'UE y contribuent. Objectif, compléter l'aide au développement pour répondre à l'une des causes de l'immigration, une aide cruciale à un moment où la croissance économique dans les pays en voie de développement est à son plus bas niveau depuis 2003. Ce plan pour l'Afrique serait calqué sur le modèle du fonds d'investissement Juncker, lancé en 2015, et destiné aux pays européens. Dans les deux cas, les investisseurs privés et publics sont incités à injecter de l'argent dans différents projets grâce à des garanties de crédit offertes par le budget de l'UE. En contrepartie, il s'agit aussi d'obtenir des pays africains qu'ils s'investissent plus dans la lutte contre l'immigration clandestine. Pas plus tard que lundi 12 septembre, les gardes-côtes italiens ont recueilli pas moins de 6500 personnes au large de la Libye.
La Russie est favorable à une prolongation de 48 heures du cessez-le-feu en Syrie, a indiqué une source militaire russe à l'AFP. Négociée par Washington et Moscou, la trêve devrait faciliter l'accès à l'aide humanitaire, notamment dans la deuxième ville du pays, Alep, ainsi que des progrès vers un dialogue politique. Elle est intervenue alors que la rébellion contre Bachar al-Assad semblait perdre du terrain à Alep.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a indiqué avoir demandé à Washington et Moscou d'aider à débloquer la livraison de secours aux localités syriennes assiégées en obtenant des belligérants les arrangements de sécurité indispensables.
Un adolescent soupçonné de vouloir commettre un acte terroriste a été arrêté ce mercredi à Paris. Le troisième appréhendé sur la même base en moins d'une semaine, ce lycéen de 15 ans a été placé en garde à vue à la Direction générale de la sécurité intérieure près de Paris, indique l'AFP. Il se serait proposé pour une action terroriste et communiqué avec un propagandiste du groupe État islamique Rachid Kassim. Ce dernier utilise la messagerie cryptée Telegram pour envoyer des listes de cibles et des scénarios d'attentats à mettre en œuvre en France.
Les vœux du prompt rétablissement continuent d'affluer à l'endroit de l'ancien président israélien et lauréat du prix Nobel de la paix, Shimon Peres, victime hier d'un accident cardiovasculaire. Son état de santé s'est un peu amélioré, mais reste critique. C'est ce qu'a dit un de ses médecins. Shimon Peres a 93 ans.
Politique américaine, la candidate démocrate Hillary Clinton reste au repos pour cause de pneumonie, mais elle doit reprendre sa campagne demain jeudi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
De bonnes nouvelles pour l'économie tanzanienne. Cette dernière, selon le gouverneur de la Banque centrale de Tanzanie, devrait enregistrer une croissance de 7,2% cette année contre 7% en 2015. Ce taux est légèrement supérieur aux prévisions annoncées par le Fonds monétaire international, qui table sur une progression de 7% du PIB de la Tanzanie cette année. Le gouverneur de la Banque centrale a expliqué l'accélération de la croissance par les bonnes performances du secteur du BTP ainsi que par l'amélioration de la gouvernance. 500 millions de dollars, c'est la somme qui a été mobilisée par la Chine et la Banque mondiale en vue de la constitution d'une entreprise dédiée aux projets d'infrastructure en Afrique. L'idée est de mettre en œuvre de grands projets d'infrastructure depuis la conception jusqu'à leur réalisation. Le déficit budgétaire du Ghana devrait connaître un repli à 4,9% du PIB cette année contre une projection initiale de 5,3%. Le PIB devrait également croître de 8% l'année prochaine, comparativement à une hausse attendue de 4,1% cette année. Ces données ont été fournies hier par le président ghanéen John Mahama dans un discours adressé à son parti.
Maintenant, votre page sportive avec Eric Manirakidza. Bonsoir, Eric.
Bonsoir, Gabi.
Un nouveau visage à la tête de l'UEFA, un outsider, n'est-ce pas?
Tout à fait, Gabi. Un homme neuf sur une scène sportive chahutée. Eh bien, c'est le Slovène Alexander Seferin, d'une réputation de nerf d'acier. Élu aujourd'hui à une écrasante majorité par les délégués de l'instance européenne du football réunie à Athènes, il a promis de faire de l'UEFA une organisation aussi transparente que possible et de suivre la voie de la réforme à l'instar de la FIFA. Une page est tournée pour dire bonjour Seferin, adieu Platini. Mais tu sais Gabi, le foot c'est comme de la politique. Et en politique, on ne meurt jamais. Disons donc partie remise.
Oh, on meurt pour renaître. Franz Beckenbauer, le Kaiser Franz, accusé de corruption, Eric. Alors de quoi s'agit-il?
Oui, le Kaiser aurait touché 5,5 millions d'euros pour son travail bénévole comme président du comité d'organisation du Mondial 2006 à Allemand. Il avait pourtant affirmé avoir travaillé gracieusement, une affaire de plus qui écorne l'image d'un personnage emblématique du football allemand, Gabi.
Je sais que vous avez suivi la Ligue des Champions hier soir. Quelques résultats?
Oui, d'abord le Bayern Munich contre Rostov. Les Bavarois n'ont pas forcé leur talent pour battre Rostov, 5-0. Le Bayern Munich compte désormais 5 victoires en 5 matchs cette saison et surtout 20 buts marqués pour aucun encaissé, toutes compétitions confondues. Et quelle démonstration d'efficacité, Gabi, entre Barcelone et Celtic Glasgow, 7-0. Les Catalans ont assommé ou atomisé les Suédois au Camp Nou avec le premier triplé de l'Argentin Lionel Messi. Un résultat plutôt frustrant entre Paris Saint-Germain et Arsenal qui contraste avec le contenu en progrès de l'équipe de la ville des Lumières, Gabi. Paris Saint-Germain incapable de concrétiser ses nombreuses occasions à concéder le nul en but partout. Exact. Et les Manukiens, c'est Manchester United, va jouer demain dans la Liga Europe.
Et en quelques secondes, la France reçoit l'Angleterre le 13 juin en match amical.
Au Stade de France à Saint-Denis, au nord de Paris. Cette rencontre va intervenir 4 jours après un déplacement en Suède dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2018, le 9 juin.
Merci. Eric Manirakidza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guiriec et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale, le Niger.
La région de Diffa, qui depuis près de 3 mois connaît une accalmie dans les attaques du groupe terroriste Boko Haram, est de nouveau la cible des insurgés islamistes. La force multinationale mixte, Nigeria, Tchad, Niger, Cameroun, avait en effet en grande partie contribué à réduire les attaques à quelques poches de résistance. Selon Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement et spécialiste des questions de sécurité au Sahel, l'attention doit rester sur les populations démunies de cette région qui ont besoin d'aide. Arzouma Compaoré l'a joint à Niamey.
La force conjointe du Niger et du Tchad, qui a été très réactive lors des attaques du 8 et du 12 septembre dernier, dans cette région-là, elle a des capacités pour anéantir les éléments de la secte Boko Haram. Mais il faut le dire, elle a eu le soutien de pays amis comme les États-Unis qui viennent tout récemment de former des policiers nigériens et qui apportent vraiment des éléments d'information sur les mouvements de la secte Boko Haram. Avant, les éléments de Boko Haram venaient s'en prendre à des îles, les occuper et repartir. Mais aujourd'hui, au vu des engagements de forces de défense nigériennes appuyées par la force tchadienne et nigérienne, on peut dire que la secte Boko Haram n'existe pratiquement pas. Il n'y a que quelques poches de résistance qui sont là, quelques individus qui essaient de mener des raids. Donc, ils ne peuvent pas, comme par le passé, mener des actions frontales en direction des forces engagées sur le terrain. Je pense qu'il faudrait continuer à mener des actions militaires, appuyées, vraiment concrètes, et les appuyer aussi par la sensibilisation et des actions humanitaires en direction des populations.
C'est la fin de Boko Haram dans la zone?
Oui, ça tend vers la fin, mais il faudrait continuer à sensibiliser les populations. Vous savez qu'il y a beaucoup de déplacés dans cette zone. Il faudrait que la communauté internationale appuie les pays engagés pour qu'ils viennent en aide à ces populations-là qui sont démunies, qui n'arrivent plus à faire leur récolte, à vraiment s'adonner à l'élevage, à leurs besoins de tous les jours. Sinon, ça créerait un précédent dangereux, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont démunis ne vont que répondre aux sirènes, à la flûte chantée par Boko Haram.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement et spécialiste des questions de sécurité au Sahel.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on se penche sur l'accès à Internet en période électorale. De la campagne américaine qui inonde les réseaux sociaux aux coupures de ces derniers à l'annonce des résultats d'un scrutin, qu'il soit tchadien, congolais ou gabonais. Deux poids, deux mesures, nous explorerons les limites de la toile, les excès ou les suspensions. Que disent les législations africaines, américaines ou encore européennes? Qui a le droit ou non de couper l'accès au réseau? La démocratie passe-t-elle par le web? On attend vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Et des progrès notables dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. C'est du moins ce qu'a laissé entendre hier à Ouagadougou le général François-Xavier de Walmont, le nouveau commandant des forces françaises Barkhane. Au micro de nos confrères de Radio Omega, il explique.
Les groupes terroristes n'ont plus de capacité de prendre une ville, de contrôler une ville. Ils restent dangereux, comme tous les terroristes du monde, mais ils n'ont plus ce qu'ils ont eu à un moment, qu'on a pu appeler l'industrialisation du terrorisme, notamment en Normalie. Donc dans le Sahel, il n'y a plus de groupes terroristes capables de mener des actions d'envergure.
Le commandant de la force Barkhane a fait cette déclaration à l'issue d'un entretien avec le président burkinabé, Rochemark Christian Kabore. Pourtant, l'évidence sur le terrain démontre la montée de l'insécurité avec l'accentuation des attaques sporadiques dans les pays du Sahel, l'apparition de nouveaux mouvements armés et la progression du groupe État islamique dans la région. Pour en savoir plus sur la question, Modibo Dembélé a joint Ousmane Bamba, directeur de publication du Bi hebdomadaire malien, Info 7.
Je ne pense pas que ce que dit Barkhane soit tout à fait vrai, parce que le groupe terroriste, je ne pense pas qu'il soit mis hors d'état de nuire, mais probablement que leur capacité opérationnelle a été réduite par la présence de la MINUSMA sur le terrain qui est visible. Barkhane aussi, mais donc on ne voit pas très bien la différence entre la MINUSMA et Barkhane aujourd'hui, c'est un peu confus. Quel est l'impact réel qu'ils ont pu gagner en termes de guerre contre ces terroristes? On ne voit pas autant qu'on a vu pour Serval qui a pu arrêter mettre des avancées djihadistes. Aujourd'hui, la présence et de l'aménagement et de Barkhane sur le terrain n'est pas une garantie de non-attaque de Mosul aujourd'hui. C'est pas confirmé effectivement que leurs capacités sont vraiment annulées.
Nous assistons aussi à des attaques sporadiques ça et là. On peut même dire que ces attaques se sont généralisées. Selon vous, cela est dû à quoi?
Selon moi, aucune force étrangère ne peut assurer l'intégrité et la sécurité d'un pays souverain. Nous avons pensé au départ que ces forces étaient là pour appuyer les forces militaires maliennes pour qu'elles puissent gagner leur combat sur leur terre. Nous avions pensé que ces forces étaient là pour nous aider, mais ce n'est pas le cas. Les capacités opérationnelles de l'armée malienne sont réduites. Certains même pensent qu'il y a un embargo sur les armes à destination du Mali, qui réduit fondamentalement la capacité d'intervention de l'armée malienne qui n'a plus aujourd'hui une aviation pour combattre. Ce n'était pas ça que nous avions pensé. Nous avions pensé que Barkhane et MINUSMA aideraient les troupes maliennes, notamment en termes de renseignement. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que, comme vous l'avez dit, les attaques sont de plus en plus prononcées, au nord qu'au sud, et ces forces terroristes qui sont encore là, parce qu'en Sardine, continuent à frapper où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, et sur le but des forces Barkhane et de la MINUSMA.
Que préconisez-vous alors comme recommandation ou bien solution?
Très clairement, il faut que l'armée malienne soit plus opérationnelle, qu'on puisse nous aider à mieux équiper notre armée, à mieux la former en termes de collecte de renseignements, en termes de capacité, par exemple, d'utilisation des technologies aujourd'hui telles que les drones pour la surveillance des frontières, et surtout aussi permettre un plaidoyer pour le monde pour que cet embargo qu'on ne dit pas assez, soit levé sur les armes à destination du Mali afin que l'armée malienne puisse avoir des capacités opérationnelles capables de défendre l'intégrité du territoire national.
Ousma Bamba, directeur de publication du Bi hebdomadaire malien Info 7.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cap sur le Burkina Faso, où la justice rend une décision qui embarrasse l'État dans l'affaire dite de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. La CAMEG est plongée depuis plusieurs semaines dans une crise qui a maintenant touché le terrain judiciaire. Des détails de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napan.
Plusieurs procédures ont été initiées devant le tribunal administratif. Le délibéré final rendu hier aura laissé plus d'une personne confuse. L'avocat conseil des nouvelles autorités de la CAMEG, maître Alexandre Sandouidi, du barreau de Ouagadougou.
Il n'y a pas d'évidence dans cette décision. Elle ordonne au docteur Koussoubé et à docteur Confé de cesser tout trouble manifestement illicite à l'égard donc de la CAMEG. La question reste posée. La même décision déclare recevable l'action de M. Kadeba et elle déclare recevable l'intervention de Dr Koussoubé. Alors c'est comme si la décision admettait tous les deux DG à agir au nom de la CAMEG.
Une modification des statuts fondateurs de 1998 de l'institution aurait été opérée sans notification préalable au conseil de suivi comme requis de l'avis de Maître Baella, avocat des nouvelles autorités de la CAMEG.
On a conservé la signature de 98 sur les statuts, mais à l'article 9 qui prévoit que le mandat des administrateurs est de 2 ans, cette page a été changée et sur laquelle on retrouve 3 ans.
C'est un véritable feuilleton auquel on assiste depuis des semaines sur cette affaire de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux. Acte 1, le ministre de la Santé commet une bévue en licenciant de façon inappropriée le directeur général Jean Kadeba, puis annule cette décision. Acte 2, le ministère de la Santé procède au renouvellement des administrateurs représentant l'État, suivant les textes de la CAMEG, avec l'élection dans la foulée du nouveau président du conseil d'administration à la personne du docteur Salifou Confé. Acte 3, ce dernier limoge le directeur général pour faute lourde et le remplace par le docteur Damien Koussoubé à la tête de l'institution. Un licenciement qui semble suivre les règles de l'art, mais qui sera attaqué en justice par le directeur général limogé, dont l'État à son tour récuse la qualité de l'action intentée, jusqu'au délibéré ambigu qui laisse cependant la primauté à l'action de l'État.
Ces décisions-là continuent de produire leurs effets. Quoi qu'on peut discuter peut-être par la suite de leur légalité, mais parce que tout simplement, tous ceux qui ont fait le droit administratif savent que l'administration bénéficie de ce qu'on appelle le privilège de l'exécution préalable.
Maître Prosper Farama, avocat du directeur général évincé, est resté injoignable pour livrer son point de vue sur cette véritable bataille pour le contrôle de l'institution. Ce bras de fer met la centrale dans une incertitude qui ne réjouit pas les Burkinabés qui en dépendent en grande majorité. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016. Alors qu'on approche du scrutin, les responsables de la sécurité sont sur leur garde à la suite d'une récente série de cyberattaques. Le point avec vous, Timothée Donongmaï.
Des pirates ont accédé au serveur de la direction nationale du Parti démocrate et subtilisé des emails qu'ils ont publiés par la suite. Des attaques ont aussi été enregistrées contre les bases de données électorales des États de l'Illinois et de l'Arizona. La Russie est soupçonnée. La commission des forces armées du Sénat américain s'est penchée sur la question mardi. Le sénateur républicain John McCain, président de cette commission, a eu cet échange au sujet des Russes avec l'amiral Michael Rogers, chef du cybercommandement américain. Y a-t-il une possibilité qu'ils puissent perturber les résultats des prochaines élections? Je pense qu'il y a des scénarios où ces capacités pourraient être appliquées à des domaines particuliers. L'amiral Rogers a tout de même nuancé son propos, expliquant qu'une cyberattaque généralisée contre le système électoral américain serait difficile à exécuter dans la mesure où les machines et les procédures électorales varient énormément en fonction des États et des comtés du pays. Par ailleurs, les responsables électoraux travaillent avec acharnement pour placer les listes et les machines électorales hors de portée des pirates et aussi des fraudeurs traditionnels. Tom Shedler est secrétaire d'État en Louisiane. C'est de son bureau que relève l'organisation des élections dans son État. Sommes-nous préoccupés par une interférence potentielle avec notre système électoral? Absolument. Mais la fraude électorale est plus difficile à réaliser qu'on ne le pense. Les machines électorales ne sont pas connectées à Internet. En outre, les cartes des données sont acheminées physiquement au centre de tabulation et les résultats sont transmis sur un circuit fermé. Il y a d'autres voies en dehors d'Internet pour attaquer des ordinateurs, comme les virus par exemple, explique Dan Wallach, professeur d'informatique à l'université Rice. Selon lui, la décentralisation américaine n'offre qu'une protection partielle contre les pirates. Ils n'ont pas besoin d'attaquer chaque comté dans chaque État. Il leur suffit de s'attaquer aux États clés où un petit coup de coude pourrait avoir un grand impact. D'où la décision de divers États d'avoir un système électoral de secours utilisant du papier, mais celui-ci ne sera pas prêt avant les élections prévues dans moins de 2 mois.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Fin de cette édition. Merci Lionel Gaïma et Nelson Lopez à la technique. Présentation Morgane Guériac et Gaby Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Merci à nos fans sur Facebook. 1 700 000. On maintient la conversation.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.